Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années maintenant, mais toujours disponible en librairie. Alors où en sommes-nous? Ben, nous en sommes au dernier chapitre de ce livre, le chapitre 13, qui s'intitule « Esthétique de la modernité ». Et j'ai mis comme épigraphe à ce chapitre la phrase de Hegel dans son esthétique, « En art, comme dans toute œuvre humaine, ce qui importe est le contenu ». Alors, lors de la dernière émission, nous avions vu que l'esthétique était une notion moderne, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à la forme de l'œuvre et à l'effet qu'elle produit, cette forme en nous, hein. C'est Kant, par exemple, dans l'analytique du beau qui a fondé l'esthétique, hein. C'est quelque chose qui était ignoré, justement, des anciens. Pour Platon, par exemple, le beau est la splendeur du vrai, hein. Donc ce qui compte, c'est que le beau, pour Platon, renvoie à autre chose que lui-même. Tandis que lorsque Kant nous dit « est beau ce qui plaît universellement sans concept hein, », eh bien, il renvoie le beau à l'agréable, ce qui déjà pose un problème, et d'autre part, il parle justement d'une forme, simplement. Hein. Alors, à la fin de la dernière émission, nous avons opposé le signe et le symbole. Nous avions dit que dans les civilisations traditionnelles, où l'homme habitait véritablement le monde, eh bien, les objets, son environnement, justement, lui renvoyaient une connivence, une complicité, et les objets étaient le symbole, justement, d'une vie authentique. Tandis qu'à l'époque moderne, l'homme s'attache plutôt à des signes qui sont des signes abstraits et conventionnels. Dans le cas de l'objet humain ou symbolique, il me parle cet objet, il me raconte des choses sur lui, sur moi, sur sa genèse, sur son apparition, sur sa fabrication, sur sa vie, sur son destin par exemple. Hein. Et c'est en ce sens qu'il est symbole. Il est symbole d'autre chose que lui-même. Autre chose que lui-même dans le symbole lui est relié, réuni et mis ou jeté ensemble. Symbole renvoie à Symbalein, qui veut dire jeté ensemble. Donc c'est un langage intime, personnel, privé, qui est confidence, chuchotement. Et dans le second cas, au contraire, dans le cas de l'objet signe ou simple allusion, l'objet peut bien sûr me renseigner, mais en fait il ne dit rien, ni de lui, ni de moi, sinon ce qu'il est convenu par tous de penser à son sujet. Alors l'objet peut servir à forger mon look, mais c'est tout, mon apparence, mais c'est tout. Il est signe pur, il est abstraction. Il s'auto-signifie par convention, c'est une pure tautologie. Tautologie, c'est tauto-legein, c'est dire la même chose. Alors je vais prendre un exemple. Un vieux vêtement usé, par exemple une vieille robe de chambre, peut renvoyer à tout un passé. Il y a un texte très beau de Diderot qui s'appelle « Regret sur ma vieille robe de chambre ». Vous voyez? Bon, donc on peut être attaché par nostalgie à une vieille robe de chambre, un objet longtemps porté, un vêtement longtemps porté, hein, qui va me symboliser, hein, devenir, non pas un signe formel et abstrait, mais devenir un symbole, justement, de ce que je suis. Hein. Alors, cette vieille robe de chambre peut avoir une histoire intimement liée à toutes les fibres de l'humain. Si Balzac, par exemple, avait à décrire cette robe de chambre, hein, il en ferait une histoire ou une explication qui prendrait plusieurs pages. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sautent les descriptions chez Balzac. Ils oublient que chez Balzac, la description, c'est-à-dire l'évocation du passé des choses, très souvent, hein, est quelque chose de constitutif de sa vision du monde, de sa Weltanschauung. Hein. Alors Balzac, par exemple, devant la robe de chambre, remonterait à la façon dont elle a été fabriquée, puis dont elle a été vendue et dont elle a été habitée au fil des jours. La médiation intellectuelle serait considérable. Les connotations et le symbolisme Aussi, une grande charge affective et personnelle, s'unissant à une réflexion plus objective et intellectuelle sur l'histoire collective des hommes, chargerait ce modeste objet de dignité, je dirais, épique. Donc on pourrait voir dans ce morceau de tissu le destin du capitalisme et de l'industrie textile, et aussi le résumé de la vie privée d'un individu. La fatigue du tissu serait à l'image de la fatigue de son porteur, et aussi l'accueil de ces formes distendues, déformées par l'usage, serait un havre de réconfort, etc., etc. Alors, bien sûr, on peut sourire de telles considérations. N'oubliez pas que chez Balzac, les descriptions sont sauvées très souvent par l'humour, hein. Donc, l'emphase de Balzac, quand je parle de dignité épique de la robe de chambre, l'emphase de Balzac ne doit pas nous induire en erreur. Balzac n'est pas dupe de son emphase. Il y a toujours chez lui l'humour. Alors, prenons par exemple, pour opposer à cela, l'exemple d'un vêtement moderne. Par exemple, la chemisette de Lacoste, la chemisette de tennis. Bon, le logo, la marque ou la griffe, le crocodile par exemple, sont purement conventionnels. Ils signifient par allusion reconnue seulement. Mais que signifie le crocodile? Rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire la marque en question. Y a-t-il des connotations, hein? Peut-être, mais en très petit nombre. C'est un vêtement assez cher qui classe son détenteur dans une certaine catégorie de consommateurs. Consommateurs qui ont assez d'argent pour acheter. Bref, le crocodile va s'auto-signifier, s'auto-proclamer ou s'auto-vanter. Il n'y a aucune polysémie symbolique qui serait liée à l'usage effectif du vêtement, à sa substance. La seule direction dans laquelle on est amené à penser, c'est la voie rectiligne et balisée de la consommation et de ses modèles. Il n'y a là-dedans aucun inconnu. Tous les consommateurs visés par la marque au crocodile sont identiques ou présupposés tels, et le vêtement signifie la même chose pour tous. Ils sont ciblés, ces consommateurs, comme on dit à la chasse, par les spécialistes du marketing. Le marketing ne vise pas ou n'aligne pas, comme on dit toujours à la chasse, des hommes ou des individus particuliers, mais des catégories. Il utilise des métaphores balistiques, par exemple la cible, l'impact, etc. Le crocodile n'est qu'un signe abstrait de reconnaissance aux yeux des autres. Aucun investissement symbolique, personnel, donc variable, changeant, c'est-à-dire humain, n'y est possible. C'est pour ça, alors je fais une parenthèse, si le signe ainsi, le signe de la consommation, renvoie justement aux possibilités qu'a l'acheteur, les possibilités financières qu'a l'acheteur de se payer l'objet, à ce moment-là, il s'agit d'une frime sociale, et cela commence très très tôt, y compris chez les enfants. C'est pour ça que moi je suis pour le port obligatoire de la blouse à l'école, parce que les signes, je parlais de la virgule de Nike ou des trois bandes d'Adidas aussi, etc., les signes renvoient à l'argent. Je suis capable de m'acheter une paire de Nike, et donc je vaux mieux que toi qui porte des chaussures sans marque. Donc la blouse, elle a l'avantage d'uniformiser tous les élèves, et finalement d'empêcher que les élèves se livrent à cette surenchère, cette compétition, qui a les possibilités financières d'acheter le meilleur vêtement. Voilà, alors je ne sais pas si ma suggestion s'imposera sur la blouse, mais il me semble que son avantage est là, évident et patent. Si je porte une blouse, sans signe, bien sûr, sans logo et sans marque, je ne me différencie pas du voisin, vous voyez. Alors, ces signes-là posent notre vie comme problématique. En plus, les signes, les logos, les marques sont doublement trompeurs, parce que d'une part, ils enchérissent le prix du vêtement. Une chemisette, par exemple, sans logo, elle est vendue, à un prix normal. Mais si je mets le crocodile sur la chemisette sera vendue 10 fois plus cher, uniquement par convention, par la convention de ce logo. Et deuxièmement, le logo ou la la marque fait de moi un homme sandwich, c'est-à-dire un publicitaire, justement, pour la marque. Donc, il y a là une double perversion du système. Hein. Alors, on voit aussi dans les procès en contrefaçon, hein, l'importance des marques hein, chez nos contemporains. Et il est très difficile aujourd'hui de trouver, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre cas, chers auditeurs, de trouver dans le commerce un vêtement sans marque ou sans logo. Hein. Si on en demande un, bon, ben, on risque d'être désappointé. Prenons maintenant le cas, j'ai pris la vieille robe de chambre tout à l'heure pour indiquer ce qu'est le symbole par opposition au signe. Prenons le cas des vieilles chaussures de paysans qui ont été peintes à plusieurs reprises par Van Gogh. Eh bien, ces vieilles chaussures renvoient à la condition humaine tout entière. On peut y voir les images de la route, du vagabond, la ruralité aussi ou la paysannerie dans leur essence. Hein. Ces chaussures sont plus que des chaussures, plus que de simples objets. Elles ont densité et concrétude, et elles sont des symboles, comme Heidegger l'a montré, par exemple, dans l'origine de l'œuvre d'art. C'est Heidegger qui utilise justement cet exemple pour montrer que une œuvre renvoie à autre chose qu'elle. Hein, et c'est tout un monde qui y est contenu. J'ai cité dans la précédente émission, ce texte de Heidegger qui se trouve dans Chemin qui ne mène nulle part, hein, l'origine de l'œuvre d'art. Bon, mais si j'inscris une marque ou un logo sur ces chaussures, hein, eh bien elles vont devenir abstraites et elles vont intéresser non pas pour elles-mêmes, mais pour la référence seulement intellectuelle qu'elles permettent, pour l'investissement émotif ou affectif. Qui est très pauvre et limité, hein, qui est en tout cas stéréotypé. Hein. Elles sont simplement représentations. Finalement, c'est moins l'usage des chaussures qu'on achète que la marque. Et d'ailleurs, on jettera ces chaussures aussitôt qu'elles seront usées. Nous sommes dans une civilisation de l'éphémère et du jetable, comme l'a montré Alwyn Toffler dans un livre essentiel qui s'appelle « Le choc du futur hein. ». Et une civilisation de l'éphémère n'inscrit plus les objets dans une histoire et un temps qui sont proprement humains, mais dans un système de référence totalement abstrait et théâtral. Nous nous donnons les uns aux autres la comédie, nous confondons constamment l'être des chaussures et leur paraître. Voyez aussi l'obsolescence programmée de tous nos objets quotidiens, hein. C'est un cauchemar pour les ingénieurs qui les mettent au point, parce que ces objets pourraient très bien durer longtemps, hein, mais la pression commerciale, la pression du marketing est telle que il faut que l'acheteur puisse renouveler son achat. Et donc on va brider les capacités techniques de l'objet, hein, de faire en sorte qu'il tombe en panne quelque temps après qu'il a été acheté, de façon, puisqu'on ne répare plus aujourd'hui, de façon qu'on puisse en acheter un autre. C'est ça l'obsolescence programmée. Alors, de ce monde-ci, finalement, se dégage l'idée qu'il n'y a rien d'humain. Nous n'habitons pas un monde humainement parlant. Et quand l'objet est ainsi arraché de son histoire et de ses médiations, pour devenir un stimulus purement conventionnel, hein, Bon, les bandes d'Adidas ou la virgule de Nike, hein, je répète, je me répète. Hein. Eh bien, l'objet se signifie lui-même, se nourrit de l'image stéréotypée qu'il véhicule, et je peux dire alors qu'un statut normal d'usage, un statut authentique d'usage ou humain, bien succède un statut déréalisé, inauthentique et vidé de toute substance. L'objet n'est plus enrichi par l'homme dont il porte l'empreinte et dont en retour il nourrit l'imaginaire, il séduit indépendamment de ce qu'il est par pure convention, fiction, disproportion et norme. Ainsi, le logo fait tout l'objet, le crocodile fait toute la chemisette, si on la lève, elle n'existe plus, elle retombe au néant. Et si on met inversement un crocodile sur n'importe quelle chemisette, comme je l'ai dit tout à l'heure, on la transfigure, comme il se voit dans toutes les affaires et procès de contrefaçon. Il y a là une grande folie, hein. L'imposture est d'y croire, et la plupart de nos contemporains apparemment y croient. Donc, il y a substitution de valeurs dégradées ou de représentations aux valeurs authentiques ou d'usage. Je vous renvoie ici aux travaux de George Lukács et de son disciple Goldman, Lucien Goldman. Ils ont parlé de la réification, de la fétichisation de la marchandise, avec leurs conséquences sur la création et la critique littéraire. Hein. Par exemple, Lucien Goldman, dans un livre qui s'appelle « Pour une sociologie du roman », montre déjà ce qu'est la marchandisation du monde. Hein. Les objets ne nous parlent plus, hein. Ils nous sont totalement étrangers. Nous sommes, comme le dit Ferré dans une belle chanson qui s'appelle « Le temps du plastique », hein, « Le temps du plastique », nous sommes dans un monde du toc et dans véritablement la société de consommation, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Hein. Ce regard porté sur les choses, qui est attaché non pas à leur être, à l'être des choses, mais à leur paraître, est un regard esthétique dans le sens que j'ai déjà défini relativement à ce mot. C'est un formalisme. Il s'en tient à la surface, à l'épiderme des choses. Il dispense de réflexion profonde. La représentation, la théâtralisation chasse la présence réelle. On sent plus qu'on ne pense, dans le fond, et on ne s'occupe que de paraître. Le mot esthétique vient du grec aesthésis, qui signifie originairement sensation. En art et aussi dans toute chose, il faudrait prendre en compte, je le répète, le contenu. Mais ici, il n'y a que la forme, il y a sensation, bien plus qu'émotion. Et c'est seulement dans le symbole, dans le rapprochement des formes et des contenus, qu'on trouve l'émotion. La société de consommation, c'est la généralisation d'un regard formel. On ne consomme pas des choses, mais des images de choses, des références ou des signes abstraits. Cette relation purement formelle aux choses est par bien des côtés homologue à notre relation strictement esthétique aux œuvres d'art. Je répète le thème de ce chapitre, hein. Si l'esthétique est une notion moderne, la modernité aussi est une esthétique. Voyez par exemple la description que fait Georges Perec d'un intérieur qui est rêvé par un jeune couple de cadres pris dans la société de consommation dans les années 60. Alors je lis un petit passage. L'œil d'abord glisserait sur la moquette grise d'un long corridor, haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair dont les ferrures de cuivre luiraient. Trois gravures représentant l'une de Thunderbird, vainqueur à Epsom, l'autre un navire à Aube, le ville de Montereau, la troisième, une locomotive de Stephenson, mènerait à une tenture de cuir retenue par de gros anneaux de bois noir veinés et qu'un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette, alors, laisserait place à un parquet presque jaune, que trois tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. Ce serait une salle de séjour, longue de 7 mètres environ, large de 3. À gauche, dans une sorte d'alcôve, un gros divan de cuir noir fatigué serait flanqué de 2 bibliothèques en merisier pâle, où des livres s'entasseraient pêle-mêle. Au-dessus du divan, un portulant occuperait toute la longueur du panneau. Au-delà d'une petite table basse, sous un tapis de prière en soie accroché au mur par 3 clous de cuivre à grosse tête, etc., etc. C'est le début du roman de Perec qui s'appelle « Les choses ». Eh bien, on est ici en plein univers de la consommation, car on n'a aucune relation avec les objets eux-mêmes, mais avec ce qu'ils signifient par pure convention. Il est convenu, par exemple, de penser que ce qui est passé ou fané est preuve de goût, alors le tapis aura des couleurs éteintes, le divan de cuir noir sera fatigué, etc. Éventuellement, aujourd'hui, on vieillit ou on patine artificiellement l'objet. L'objet neuf semblant vieux, c'est l'ironie majeure de notre temps. Hein. Patiné antiquaire, etc. Hein. Trop d'ordre aussi passe pour vulgaire. Alors, les livres seront, comme dans le passage que j'ai dit, entassés pêle-mêle, etc. Les objets sont accumulés hors de leur contexte, tirés de leur sphère initiale de signification. Comme dans le musée, exactement comme dans le musée, ou justement dans une boutique d'antiquaire. Le tapis de prière, alors c'est grotesque, le tapis de prière en soi accroché au mur. Le tapis de prière quitte la mosquée, où il servait à la prière, pour être accroché au mur, hein, ce qui est ridicule. Hein. Le portulan, alors le portulan, le portulan occupe toute la longueur du panneau. Hein. Le portulan va quitter le bateau pour décorer une paroi, etc. C'est une carte marine. On en a besoin dans un bateau, mais on n'en a pas besoin dans un intérieur, vous voyez. Donc ce regard fait abstraction des significations pour ne s'attacher qu'aux apparences, à l'aspect des objets qui sont mêlés de façon hétéroclite et grotesque. Cet entassement, qui est un défi à l'intelligence, caractérise beaucoup d'expositions d'art aujourd'hui. Hein. Et l'antiquaire, je répète, la boutique d'antiquaire résume tout cela. Mais quiconque décore aujourd'hui de cette façon sa salle de séjour tombe dans ce défaut. Ça semble être un magazine comme Art et Décoration, hein, ce dont nous parle Pérec. Hein, voilà. Mais en fait, tout y est, fait pour le plaisir de l'œil, pour la facilité. Par exemple, une tenture de cuir retenue par trois gros anneaux de bois veiné qu'un simple geste suffirait à faire glisser. Là, toute la négativité de la vie est exclue, hein, parce que souvent, le geste ne suffit pas. Souvent, ça s'accroche, etc. Souvent, il y a des pannes. Souvent, dans un intérieur, une maison, les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Ça coince, etc. Mais là, simplement, des anneaux de bois noir veiné, qu'un simple geste suffirait à faire glisser, etc. Donc c'est un monde complètement irréel, complètement kitsch, complètement factice. Hein. Mais c'est sûr que si on en montre une image dans Art et Décoration, on n'en voit pas le grotesque. Par contre, quand on écrit, regardez la supériorité énorme de l'écriture par rapport à la vision, du verbe, du langage par rapport à la vision, dire un tapis de prière en soie accroché au mur, hein, alors là on voit bien le grotesque de la chose. Ça fait penser aux gravures que voit Emma Bovary dans le roman de Flaubert, hein. Une forêt vierge bien nettoyée. Hein. Si la forêt est bien nettoyée, ce n'est plus une forêt vierge, etc. Seul le langage peut montrer par l'ironie le grotesque des choses. Hein. La vision, elle, n'a pas toutes ses possibilités. Aujourd'hui, on décore. Alors, par exemple, on sent bien que le monde ancien, le monde le monde paysan, était un monde habité. Alors on va mettre des poutres apparentes dans la salle de séjour de la maison qu'on va faire construire. Et souvent, ces poutres apparentes sont purement décoratives. Elles ne sont pas fonctionnelles. Elles n'ont pas pour fonction de porter un plancher, mais elles sont décoratives. Bon, elles ne sont pas en bois, bien sûr, mais elles sont en béton précontraint, etc. Hein. Vous voyez, le texte de Pérec, si on le lit bien, est totalement ironique. Le couple qui s'appelle Jérôme et Sylvie, le couple des deux jeunes gens, croit qu'il s'agit là du bonheur. Mais là où il croit qu'il y a bonheur, le lecteur doit comprendre, évidemment, aliénation. Hein. Et finalement, à force de s'intéresser aux choses, ce couple va cesser de s'aimer, hein, puisqu'il va courir les antiquaires, faire du shopping, etc. Et il n'y aura plus de relations entières, de relations véritables entre eux, vous voyez. Quant à la culture, elle fonctionne par simples allusions. Par exemple, la gravure du bateau à aube, la ville de Montereau, renvoie à la première phrase de l'éducation sentimentale de Flaubert. C'est une référence, un signe de reconnaissance ou de ralliement, un clin d'œil qui classe le possesseur de la gravure dans la catégorie des intellectuels, des gens cultivés, de ceux qui connaissent Flaubert. Et il n'est pas nécessaire du tout d'avoir lu Flaubert à ce moment-là. Autrefois, être cultivé était de lire l'éducation sentimentale. Aujourd'hui, il suffit de savoir que le bateau sur lequel s'embarque Frédéric au début du roman, s'appelle « Le Ville de Montereau ». En ce sens, les signes de la culture d'autrefois sont aujourd'hui remplacés par une culture des signes. Voyez, hein, les signes de la culture sont aujourd'hui remplacés par une culture des signes. Alors on sera cultivé si on sait que le héros du Rouge et le Noir s'appelle Julien Sorel, que sa maîtresse s'appelle Madame de Rênal, etc. Hein. Cela dispense de lire le roman. La culture fonctionne comme des quiz. Hein. C'est une caricature de culture. Et ces détails font le SMIC culturel de chacun. C'est un zapping culturel généralisé. Finalement, c'est la culture du trivial poursuite, des jeux culturels divers, radiophoniques, télévisés. Et pour beaucoup, les champions de ces jeux sont les êtres les plus cultivés, ce qui est une imposture. C'est comme si on disait qu'être cultivé, c'est connaître parfaitement l'orthographe, par exemple. Hein. Pour beaucoup, aujourd'hui, il y a confusion. Hein. On confond l'essentiel avec l'accessoire, le fond avec l'écume des choses. Par exemple, dans « Question pour un champion hein, », eh bien, on poserait les deux types de questions. Comment s'appelle le bateau sur lequel embarque Frédéric Moreau? Réponse, le Ville de Montereau. Ah oui, vous êtes cultivé. Non. Alors, Baudrillard, dans « Le système des objets », parle à propos de la société de consommation, d'une consommation de signes. Hein. Et de fait, alors, dans le décor décrit par Pérec, tout est signe, signe pur ou abstrait, et rien n'y est symbole, au sens de complicité des objets avec l'homme. Si tout est riche de références, il n'y a pas de présence humaine et il n'y a pas d'histoire. Et loin de symboliser une relation authentique de l'homme et des objets, les objets extérieurs à cette relation, dans leur continuelle référence, signifient le vide absolu de la relation, et finalement aussi l'absence de toute relation entre leurs possesseurs. Les choses, ou plutôt l'image des choses, obsède les héros du roman, Jérôme et Sylvie, au point que plus aucun sentiment, aucun échange véritable n'existe entre eux à la fin du roman. Il n'y a plus ni dialogue ni contact. Le monde est nu et vide, et l'invasion des choses dans la société de consommation signifie la mort des échanges véritablement humains. C'est ce qu'on appelle la réification, du latin « res » qui veut dire « la chose hein. ». Donc, et le kitsch, alors, de l'ensemble, naît de la décontextualisation. Hein. C'est-à-dire, on arrache les objets à leur lieu habituel et nécessaire de présence pour les mettre dans un autre contexte. Le contexte, lui, fait comprendre et induit l'idée de nécessité. Le tapis de prière est fait pour prier. Bon, mais quand on le décontextualise, quand on le met contre le mur, alors finalement, on oublie le sens et le contenu. Le kitsch, c'est de l'émotion pure, sans aucune compréhension, sans aucune réflexion, sans nécessité. Alors qu'un objet doit avoir une nécessité dans sa présence auprès de nous. Voilà, alors j'espère que je n'ai pas été trop péremptoire, que je n'ai pas été trop caricatural. Nous continuerons lors de la prochaine émission d'analyser les données de la société de consommation, qui est une société de consommation de signes. Et qui renvoie justement à l'étrangeté, au divorce entre l'homme et son monde, et le monde qui l'entoure. Voilà, mais je vous souhaite une bonne réflexion. J'espère que vous n'allez pas trop culpabiliser en pensant au kitsch, en regardant autour de vous. Hein. Mais c'est un très bon exercice. Qu'est-ce qui est kitsch, qu'est-ce qui ne l'est pas? De toute façon, nous reprendrons la réflexion sur le kitsch, entre autres choses, lors de la prochaine émission, à laquelle je vous renvoie. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.